Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, une émission spéciale sur l'immigration et la santé mentale. Je me suis rendu au Centre d'action socio-communautaire de Montréal récemment. J'ai rencontré des personnes qui nous ont expliqué un peu les enjeux rencontrés par les immigrants et en rapport avec la santé mentale aussi. Je rencontrerai Adelia Ferreira, Fernanda Salguero, Nour Gilani et Maria Leal. Tout ça à l'émission de Folie douce. On commence en chanson avec Lisa Leblanc et la chanson « Entre toi puis moi puis la corde de bois ». Bienvenue chez nous.
Vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce.
Pour amorcer cette émission spéciale, je reçois Adelia Ferreira. Bonjour Adelia.
Bonjour Yvan.
Alors, bienvenue à cette émission spéciale sur l'immigration et la santé mentale. C'est important d'en parler. Je pense que ça a souvent été délaissé, l'immigration, quand on parle de santé mentale. Tu es présidente du conseil d'administration du centre où on est, le Centre d'action socio-communautaire de Montréal, qui a été créé il y a longtemps. Pourrais-tu nous présenter le centre d'abord?
Le centre a été créé en 1972. À l'origine, le centre était un centre communément appelé le centre portugais, visait surtout des ressortissants de la communauté portugaise. Et par ailleurs, l'immigration ayant changé, il y a 20-quelques années, le centre a décidé de changer de nom pour être beaucoup plus représentatif de sa clientèle et s'appeler le Centre d'action socio-communautaire de Montréal. Avec quand même une grande représentation de ressortissants de langue portugaise, de lusophone. Mais on donne des services. On est un centre qui accueille des immigrants en besoin de services de partout. On en a d'un peu partout. Et donc, pas uniquement des gens qui parlent portugais, mais d'un peu partout.
C'est quand même quelque chose de souligner qu'une ressource communautaire est dans la collectivité depuis plus de 50 ans. Là, c'est quand même pas rien, parce qu'en sachant tous les enjeux qu'il y a, mais les services doivent être donnés aux gens.
Et nous sommes en existence depuis plus de 50 ans, mais nous sommes dans le même quartier également. Nous sommes sur le plateau Mont-Royal. Nous étions à quelques rues autrefois d'ici, mais nous sommes quand même ici depuis plus de 20 ans à l'endroit actuel.
Sur le boulevard Saint-Joseph, près de Saint-Laurent, donc très bien situé, là, surtout pour la communauté qui parle portugais, mais aussi pour tous les gens. Je pense que c'est très accessible.
Par métro, par les grandes voies urbaines, donc oui.
Tu es présidente du conseil, comme on disait tantôt, depuis quand même quelques temps, et puis t'as certainement vu un peu l'évolution du centre. Est-ce que le côté santé mentale, parce que c'est ça dont on va parler avec aussi d'autres invités dans le courant de l'émission, mais est-ce que le côté santé mentale est devenu un peu plus apparent ou en tout cas à l'avant dans vos préoccupations d'activité et ces choses-là?
Moi, comme j'ai vécu le centre à deux périodes différentes, j'ai quand même été au centre dans les années 90, fin des années 80-90. Après ça, je suis revenue dans les années 2000. Et effectivement, le centre a toujours été un dispensateur de services, donc pour la clientèle immigrante. Mais la question de la santé mentale est venue beaucoup plus présente. Non pas juste les immigrants n'ont pas juste besoin de services. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres choses qui les attendent, pas juste d'avoir un permis de travail, pas juste d'avoir une carte de résidence permanente, pas juste de renouveler une carte. Et c'est dans ce sens-là où le centre a quand même pris un certain tournant à un moment donné, où il y a énormément d'activités qui sont reliées à une clientèle immigrante, mais qui ne sont pas nécessairement le fait de dispenser des services, mais c'est le fait d'avoir des activités, briser l'isolement, ouais. Avoir un endroit où les gens se retrouvent, parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens ont quitté, se retrouvent seuls à Montréal. Montréal est quand même une ville accueillante, mais se retrouvent seuls à Montréal. Il y a pas de repères, beaucoup moins de repères, et donc c'est important pour un centre comme celui-là, où les gens, sur une période d'un an, par exemple, vont venir à plusieurs reprises, parce qu'on travaille sur le plan d'intégration, d'accueil et intégration. Donc, c'est plusieurs démarches lorsque les gens arrivent ici. Et de pouvoir leur donner des services qui leur permettent de rencontrer d'autres personnes dans la même situation, d'échanger. Donc, pour nous, ça a été vraiment, depuis, après la pandémie, ça a été vraiment notre objectif.
Dirais-tu, Adélia, que aussi la santé mentale, c'est un peu tabou, tu sais, ça l'a été longtemps, là, on fait l'émission depuis 34 ans, puis on a l'impression que certains milieux, il y a encore beaucoup de tabous, mais chez certaines communautés culturelles, immigrantes de longue date ou de moins longue date, il y a comme un tabou au niveau de la santé mentale.
Je dirais que c'est plus fréquent encore. Puis les gens aussi, quand ils immigrent, ben c'est pas la première chose à laquelle ils pensent. Il y a toute la question de l'urgence de s'installer, de l'urgence d'arriver, d'avoir un toit, à manger, tout ça. Mais parfois, peut-être qu'on n'est pas conscient que la santé mentale doit être elle aussi prise en considération. La santé mentale, ça implique ne pas être seul. Ça implique pouvoir en discuter. Ça implique pouvoir discuter de ce qui nous préoccupe. Et c'est pour ça qu'on offre ici des espaces avec des ateliers, avec on a des conférences, on a plein d'activités qui sont données ici qui permettent aux gens de venir s'exprimer, de venir parler de la difficulté que peut constituer l'immigration.
Oui, et souvent par des activités plus, on dirait plus ludiques ou, tu sais, par exemple, des soupers. Je sais que depuis que tu es présidente du CA, tu as amené beaucoup de dynamisme, en fait, puis des activités, des repas, des choses comme ça, des choses qui peuvent sembler banales, mais qui permettent peut-être que les gens puissent sortir ce qui les dérange aussi.
Les gens ont aussi besoin d'avoir un certain sentiment d'appartenance. Puis là, on parle quand même de gens, d'une immigration quand même assez récente, parce que nous, on reçoit des sommes du ministère de l'Immigration. Et on a tout un volet qui est accueil-établissement. Donc, c'est des personnes qui arrivent ici un an et moins, deux ans et moins. Donc, pour eux, ce qui est important, c'est pas juste, comme je disais, d'avoir des services, mais c'est de pouvoir échanger sur ce que c'est. C'est quand même un choc. Ces gens-là n'ont pas d'amis. On souvent communique avec des gens du pays d'origine, mais n'ont pas d'amis ici. Donc, et ce qu'on a fait au centre, on a essayé de développer aussi des services. On a des cours de peinture, on a des cours, des ateliers de couture, on a tout ce qui est nécessaire pour aider les gens à dépenser le moins possible parce qu'ils n'ont pas énormément de ressources souvent, et également pour pouvoir partager, pouvoir acquérir des connaissances, acquérir avoir d'autres cordes à leur arc. On a commencé même une friperie, donc, que l'on fait régulièrement, mais on est en train de la mettre sur une base permanente. Quand les gens viennent ici pour des services, bien, s'ils ont besoin, cette année, on avait beaucoup de manteaux d'hiver, bien, les gens ont pu se procurer des manteaux d'hiver à un prix extrêmement raisonnable. Puis, c'est quand même quelque chose.
Ça, c'est quelque chose de concret qui aide les gens. Il nous reste encore quelques minutes, Adélia. Tu sais, dans la société, on sait qu'il y a des services pour les immigrants. On sait que souvent, on n'a pas trop conscience de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dessous, qui n'est pas nécessairement publicisé, qui n'est pas dans les médias, qui n'est pas... On en parle aujourd'hui, mais il y a beaucoup de travail qui se fait.
Effectivement, nous, on n'offre pas de services thérapeutiques, mais il y a d'autres organismes qui offrent ce type de service, offrent du support thérapeutique. Et donc, nous, on réfère. On a commencé à référer, à essayer de voir. Parfois, on a des universitaires qui viennent. On a des gens qui nous font des conférences, comme en matière de violence conjugale, par exemple, parce que c'est une réalité aussi.
Ouais.
On a eu des gens de maisons d'hébergement qui ont des services à l'externe qui sont venus. Et donc, on essaie de créer aussi ici un service de référence pour permettre aux gens, pour des problématiques qu'on ne peut pas aider, puis qui ont besoin d'un peu plus de services et un peu plus de support, bien de les référer.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment sera l'avenir du centre? Parce que tu as peut-être une vision, des fois on réalise pas tout ce qu'on veut, mais comment tu vois le centre, disons, dans 5-10 ans?
Moi, j'espère qu'il va continuer à grandir. Puis, le centre, présentement, il grouille d'activités. On peut continuer à développer des services. Et ma vision des choses, ou la vision un peu du conseil d'administration que nous avons présentement, c'est de dire qu'un centre communautaire doit vivre. Il doit grouiller. Il doit y avoir... Les gens doivent se sentir bien et ça leur appartient. Et c'est ce qu'on essaie de dire à aux gens qui viennent ici d'être membres du centre, de venir à l'Assemblée générale, de participer dans les décisions, de participer dans des brainstorming, avoir des idées
là,
pour faire des activités, qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi. Et c'est là-dessus qu'on travaille.
Il faut que ça soit à l'image des membres. C'est ça la vraie nature d'un centre.
Puis c'est sûr qu'il reste toujours toute la question du financement. Bien, on essaie de s'autosuffire un peu plus. On essaie de trouver des façons d'aller chercher du financement beaucoup plus autonome. Nous sommes un organisme de charité. On essaie d'utiliser cette voie-là aussi.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'on est toujours à la merci un peu des subventions de ce qu'on reçoit des gouvernements.
Merci beaucoup, Adélia. Adélia Ferreira, donc tu es présidente du conseil d'administration du Centre d'action socio-communautaire de Montréal. On poursuit avec d'autres invités dans le courant de cette émission spéciale de Folie douce sur la santé mentale et l'immigration. Merci.
Merci. ¶¶
Est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
Je suis maintenant en compagnie de notre invitée, Fernanda Salguero. Bonjour Fernanda et bienvenue
Bonjour.
À l'émission. Bienvenue et merci d'accepter l'invitation. Tu es conseillère sociale senior au Centre d'action socio-communautaire de Montréal, dont on parle dans cette émission-ci, parce qu'on parle d'immigration et de santé mentale. C'est un sujet quand même qui est intéressant, je pense qu'il faut s'attarder à ça. Quel est ton rôle quand on dit conseillère sociale senior? Qu'est-ce que tu fais au Centre?
Moi, je travaille au service individuel. Je reçois les gens, je vois leurs problématiques. Et on travaille avec toutes les lois. On travaille, quand je dis toutes, c'est l'immigration, accident, logement, avec toutes les lois d'ici, demande de pension, suivi, contestation, demande d'invalidité. Beaucoup de cas de santé mentale qu'on demande la pension.
Ça fait plusieurs années que tu œuvres au Centre. Est-ce que tu as vu l'évolution des services? Est-ce que ça a changé avec les années? Est-ce que c'est différent?
C'est différent. Présentement, on a beaucoup plus de nouveaux arrivants. Il y a eu les années 80 qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, un peu moins. Et là, on voit beaucoup des travailleurs temporaires qu'on n'avait pas avant.
Oui. La réalité est différente. Les gens veulent rapidement trouver une façon de se trouver un emploi, un logement, ces choses-là.
C'est ça, oui.
Quand tu parles, Fernanda, justement, des problématiques, on a les problématiques, comme tu disais, d'aller chercher des permis, d'aller chercher des trucs de loi, tout ça, pour que tout le monde soit un peu fonctionnel. Mais qu'est-ce que tu remarques, disons, au niveau santé mentale avec les différentes personnes que tu rencontres?
Dernièrement, je pense que le fait de ne pas avoir la résidence permanente, les gens commencent avec une dépression et les demandes d'immigration, le processus est très long. On a beaucoup de travailleurs temporaires qui viennent comme travailleurs pour pouvoir obtenir la résidence permanente. On a des étudiants qui payent très cher pour les études et pour les démarches d'immigration pour pouvoir devenir résident permanent. C'est très long et les gens, des fois, désespèrent. Et c'est facile d'avoir une problématique de santé mentale. Oui.
Autrefois, tu sais, ça arrivait souvent, peut-être ça se fait encore aujourd'hui, on entendait souvent que des gens avaient jamais réussi à s'intégrer vraiment, donc ils retournaient dans leur pays. Est-ce que ça se voit encore aujourd'hui?
On voit quelques-uns, parce que on voit de plus en plus une immigration qui est hautement classée, bon, qu'ils ont beaucoup d'études et tout ça, et qu'avec les démarches désespérées, à un moment donné, il y a quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns qui débarquent, qui retournent dans le pays d'origine.
Hein? Est-ce que tu dirais, Fernanda, que la santé mentale est plus taboue avec les personnes immigrantes? Parce que, tu sais, on a longtemps parlé de... c'est difficile, c'est souvent, la santé mentale, c'est pas... Tout le monde, en théorie, les gens disent, ben oui, on est pour, on en parle, mais...
Moi, je pense que de plus en plus, les gens sont plus conscientes et acceptent mieux d'aller voir un psychologue. Avant, non, je suis pas fou pour aller voir un psychologue. Là, ils acceptent mieux. Pas un psychiatre, mais un psychologue, ils acceptent mieux d'aller consulter.
Oui. Et dans tes tâches quotidiennes, qu'est-ce que tu dirais qui te remplit le plus, qui te satisfait le plus en termes de ton travail? Tu sais, c'est un travail quand même social, c'est un travail humain.
Réussite des cas, les demandes qu'on fait, les suivis, les contestations. Et heureusement, on a beaucoup, beaucoup de positif. On est capable d'aller chercher ce que les gens ont besoin. Et ça nous donne beaucoup de...
Oui, parce que le découragement peut être facile aussi pour les employés d'ici, là, tu sais, comme toi. Mais quand tu réussis à avoir quelqu'un qui s'en sort,
Comme par exemple une demande de pension d'invalidité, quand on réussit à qu'elle soit acceptée, c'est très, très bien pour moi. Personnellement, je reste contente pour la personne.
Ça reste surtout pour des personnes plus âgées ou ça peut aussi pour des personnes plus jeunes?
Ah oui? En santé mentale.
OK. À cause de la santé mentale, ils peuvent avoir une pension d'invalidité. Oui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui peut les aider à subvenir à leurs besoins, finalement. Là.
Ça dépend toujours le montant. Ça dépend de ce qu'ils ont travaillé. Mais oui. On a, par exemple, des jeunes, quelques-uns d'origine portugaise, qu'on dessert la communauté portugaise aussi, qu'ils quittent l'emploi pour raison de maladie, et que comme ils viennent ici, je les ai conseillé de faire une demande de pension d'invalidité parce que normalement, ils vont avoir un héritage. Et s'ils sont sur l'aide sociale, ils ne peuvent pas toucher l'héritage et continuer avec l'aide sociale. Et comme ça, on a demandé la pension d'invalidité, ils peuvent avoir un revenu et l'héritage.
Ça passe par là. Ouais. Si les gens ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins, ça met un stress de fou là, sur les gens. Ouais, là. Ouais. Si tu avais quelque chose à changer au niveau des procédures, la façon que le gouvernement fonctionne, tu es quand même témoin de ça depuis des années, mais qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu améliorerais?
Les délais.
Et pourquoi, d'après toi, il y a tant de délais au niveau de...
On peut pas... Une pension d'invalidité peut prendre 6 mois. C'est très long pour une personne qui est malade et qui attend un revenu. Ouais.
Et dans les autres sphères aussi, tu parlais tantôt des autres permis.
On a eu un gain présentement avec l'assurance-emploi qui était 15 semaines et a passé à 26 semaines d'assurance-emploi pour maladie. C'est un gros gain, je pense, parce que 15 semaines, ce n'était rien.
Ouais. Et si tu avais quelque chose à dire au niveau des immigrants qui arrivent, des nouveaux arrivants, qu'est-ce qui est la bonne façon de faire pour... tu sais, les gens qui n'ont jamais immigré, on n'a pas idée comment ça doit être difficile de s'intégrer dans une société. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon d'amoindrir les problèmes? Est-ce qu'il y a une façon que ça soit plus facile? Qu'est-ce que tu conseillerais?
Commencer pour apprendre la langue. Ça, c'est primordial pour aider les enfants à l'école, l'intégration des enfants, des parents, la langue, c'est primordial.
C'est vraiment le point. Ouais. Beaucoup de gens ne réussissent pas à cause de la langue.
C'est ça,
c'est quand même désolant.
Même si on veut prendre un cours, une formation, il faut que la personne connaisse la langue, sinon...
Et je croyais que les gens qui arrivaient ici avaient déjà un certain minimum pour arriver au Québec, pas nécessairement.
Pas nécessairement.
Okay. Comment tu vois, mettons, la suite au centre? Ici, c'est un centre, on en parlait tantôt avec Adélia, que ça fait quand même depuis 1972 qu'il existe, qui a évolué beaucoup, bien impliqué dans la société.
Les gens viennent, ils peuvent être ici, prendre un café, ouvert à toutes les communautés, et que tout le monde soit bienvenu et qu'on puisse s'entraider, tout le monde.
Que ça devienne un endroit que,
dont on... Accueillant,
oui. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font, mais effectivement, c'est ça.
Mais les gens viennent pour les activités, viennent pas pour un après-midi. On va prendre un café. On a des cafés-rencontres, oui, on va voir les gens, mais que les personnes puissent rentrer et se sentir chez eux.
Oui. Merci beaucoup, Fernanda, d'avoir été avec nous. Fernanda Salguero, tu es conseillère senior au niveau du Centre d'action socio-communautaire de Montréal. On a compris un peu mieux encore la réalité. On ne connaît pas tant que ça dans la société en général. On ne connaît pas tant que ça tous les enjeux qui peuvent arriver. Alors, merci de nous l'avoir expliqué à l'émission.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup. Bonne continuation.
Merci.
Au revoir. Quelques secondes encore, Pierre, avant de faire la pause, justement, de la demi-heure. Un sujet important pour moi, c'est important pour moi de me rendre au centre là-bas pour rencontrer les gens sur place. Tu sais, on fait ça de temps en temps, de se rendre. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse, l'immigration et la santé mentale.
Oui, on en a déjà parlé, comme tu l'as dit. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des gens, dépendants de leur culture, même de leur religion, ça va être plus délicat de parler de santé mentale. On dirait que chez certains groupes, on dirait que c'est une honte, même on préfère garder ça caché. Donc, on peut pas s'attendre à ce que ces gens-là aillent facilement voir soit les psychologues ou les psychiatres.
Ça a été un peu ça il y a longtemps, tu sais, chez les gens de souche ici, mais effectivement, il y a des tabous là-dessus. On continue cette émission spéciale sur l'immigration et la santé mentale.
Retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Je suis maintenant en compagnie de notre invité, Noor Djilani. Bonjour Noor et bienvenue.
Bonjour.
Nous sommes bien sûr toujours au Centre d'action socio-communautaire de Montréal. On parle d'immigration et santé mentale. Tu es conseiller social, Noor, depuis quelques années au Centre.
Ouais.
Comment tu peux nous présenter ton travail, en fait, ici?
Je dirais que c'est principalement beaucoup de paperasse. Je n'ai jamais travaillé... autre que ici au bureau, je donne des rendez-vous à du monde qui viennent avec toutes leurs affaires d'immigration et je les aide avec n'importe quelle démarche qu'ils ont à faire avec l'IRCC ou la MIFI, RAMQ, allocation familiale, n'importe quelle demande au gouvernement. On remplit tous les formulaires ensemble, on s'occupe de tous les documents et on envoie ça et on attend.
Comment tu qualifies, disons, ton travail? Est-ce que c'est primordial pour un immigrant qui arrive? Est-ce que les gens qui arrivent au pays doivent avoir de l'aide, mais est-ce que ça prend justement quelqu'un comme toi?
Au gouvernement, ils ont leur propre langue avec tous ces formulaires et ces sortes de choses, donc c'est facile d'y s'y perdre et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a l'habitude. Fernanda, ma collègue, qui travaille ici depuis des dizaines d'années, elle connaît toutes ces sortes de procédures, tandis que si tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas exactement quoi faire, tu te sens perdu.
Ouais.
Et aussi, tous les documents sont soit, et toute l'information est soit en anglais ou en français, donc si tu ne parles pas une de ces deux langues, si tu ne la maîtrises pas mal,
Tu étais un peu perdu puis désemparé. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as remarqué depuis que tu travailles dans ce domaine-là, que tu fais justement, que tu conseilles les gens? Est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux où il y a vraiment une importance, en fait?
Oui, ben je dirais que les personnes immigrées suivent la politique de l'immigration très près, puisque ça les
touche directement.
Exactement. Ouais, n'importe quel changement au fédéral ou au provincial et souvent ils se le partagent dans des groupes chats ou quoi que ce soit
pour être vraiment à l'affût de qu'est-ce qui se passe
exactement. Et des fois ils savent ce qui a changé avant même que nous, ici, on a eu le temps de lire les avis ou quoi que ce soit.
Ouais. Ouais. Parce que dans le fond, le but ultime des immigrants, c'est de s'intégrer, d'avoir un emploi, d'avoir un logement, une maison, de fonctionner finalement, d'avoir une nouvelle vie. C'est aussi simple que ça. Ouais. On ne connaît pas tant des fois les démarches qui sont derrière tout ça, mais les gens peuvent être un peu désemparés avec tout ça.
Oui, et ça peut être compliqué, ça peut être... énervant. Il y a du monde qui ont envie de juste abandonner parce que ça fait trop. Je pense aussi beaucoup à l'incertitude que beaucoup de gens expérimentent, comme ne pas savoir si l'application va être refusée ou acceptée. C'est stressant quand même. Mais
bon. Est-ce que ça arrive que quand tu rencontres des gens, ils te partagent un peu des problèmes de santé mentale qu'ils peuvent avoir? Est-ce qu'il y a beaucoup de découragement? Est-ce qu'il y a beaucoup de détresse dans les gens que tu rencontres?
Oui, je dirais surtout dans les communautés réfugiées. C'est moins que... Je dirais c'est comme 5% des clients que je vois sont des réfugiés, mais des fois, c'est évident qu'il y a des...
Il y a une détresse ou un stress.
Ouais.
Parce qu'il y a de l'insécurité, tu sais, c'est ça?
Absolument. Ouais. Et souvent, c'est... ils sont plus préoccupés à faire assez d'argent pour payer le loyer, pour ceci, cela, pour envoyer de l'argent à leur famille, au pays. Donc, il y a vraiment beaucoup de pression, je dirais. Sur le mental.
Si tu pouvais changer des choses, avec les observations que tu fais, qu'est-ce que tu changerais pour que ça soit plus facile pour les immigrants?
C'est une bonne question. Ben, j'irais plus de centres comme celui-ci. On devrait avoir des grands centres comme ceux-ci qui offrent des services gratuits et qui offrent de l'aide à comment se repérer, comment faire ses démarches et tout ça.
Est-ce qu'en général, il y a des gens de tous âges ou c'est quoi le portrait de l'immigration actuellement? Chez vous, en tout cas, au centre ici?
Ben, ça dépend. Quand je fais des demandes de permis d'études, c'est souvent des jeunes de 18, 19, 20 ans, dans la vingtaine d'habitude. Mais sinon, les permis de travail, je dirais, plus la trentaine. Oui, mais nos clients ont tout âge.
De tous âges. Puis, qu'est-ce que les gens te confient? Est-ce que, par exemple, c'est sûr que ça vaut beaucoup. On le sait, je pense, à travers le monde. Des fois, on le réalise pas quand on est Canadien, puis de naissance, par exemple, dans ton cas, tu es né ici aussi. Mais quand on est Canadien de naissance, ça vaut cher, là, à travers le monde. Puis les gens sont prêts à faire beaucoup de démarches, tout ça. Mais est-ce que tu crois que la majorité des gens trouvent que, quand même, ça vaut la peine de persévérer?
Là. Oui, je dirais définitivement que oui. Je pense que d'un point de vue politique, ça s'empire un peu, je dirais, beaucoup. Mais tu as raison, le privilège qu'on a en tant que Canadien, des fois, on ne réalise pas ça jusqu'à temps qu'on aide les personnes immigrées et puis on prend beaucoup de choses pour acquis. Je sais être né ici, je sais qu'il fait froid en hiver et tout, mais on a des millions d'avantages qu'il y a des millions de personnes dans le reste du monde qui adoraient avoir ce sorte de privilège.
Oui, on est en compagnie de Nour Djilane, alors tu es conseiller social au Centre d'action communautaire de Montréal. Est-ce qu'il y a des choses, depuis que tu œuvres dans ce domaine-là, pour le centre ici, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce que tu as été étonné de certaines choses? Est-ce que tu as appris des choses toi-même sur le monde de l'immigration?
Oui, absolument. J'ai toujours été intéressé par l'histoire et la géographie et les cultures et ce genre de choses, mais j'aime apprendre... le plus que je peux sur n'importe quel pays où que mes clients viennent.
Ouais.
J'ai commencé à apprendre l'espagnol il y a à peu près 4 ans, donc ça a quand même beaucoup amélioré en travaillant ici, puisque j'offre le service en espagnol.
Ça aide beaucoup de gens, en parlant dans leur langue, c'est quand même un atout. Puis trouves-tu que la santé mentale, c'est tabou encore? Est-ce que tu crois qu'on évite des fois le sujet? Tu sais, les gens qui pourraient avoir une dépression à cause de problématiques, à cause que c'est difficile, à cause que c'est ardu, est-ce que tu trouves que la santé mentale est encore tabou, mal connue, peut-être chez certaines communautés?
Oui, je dirais que oui. Il y a un certain tabou et c'est peut-être, comme par exemple la thérapie ou quelque chose, est encore vu comme étant pas pour eux ou quelque chose qui montre de la faiblesse ou quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de faire ou ouais. l'inclination. Mais ouais, ça dépend de certaines communautés. Il y a du monde de partout ici. Il y a des Européens, des Latinos, des Africains, du monde de partout. Ouais. Donc c'est dur de généraliser. Comme
Et
ça.
Est-ce qu'on te confie de temps en temps des problèmes de cet ordre-là, des problèmes de santé mentale à tout ordre, là? Je veux dire, que ce soit grave ou moins grave, est-ce qu'on parle des fois des gens au niveau de leur santé mentale? Est-ce qu'ils t'en parlent?
Je pense que des fois, c'est pas dit, mais c'est ressenti. Moi, puisque je suis conseiller social, mais quand je dis ça à du monde, ils pensent que je fais de la santé mentale, mais en fait, ce que je fais, c'est de l'immigration. Je pense que j'aime les aider, et ça fait du bien d'aider le monde aussi. Et je pense que quand ils viennent ici, ils ont besoin d'aide. Donc, point final, s'ils ont besoin d'aide avec ceci ou cela...
T'es prêt à l'offrir. Exactement. Ouais, ça, tu t'adaptes aux gens, en fait.
Ouais, des fois, je fais des choses qui n'est pas nécessairement dans mon...
Ouais.
Dans mon...
Dans ta liste de tâches à faire.
Ouais. C'est pas dans l'offre d'emploi, mais ouais. ils ont besoin d'aide avec quelque chose, je vais les aider avec quelque chose.
Quand on fait affaire avec des humains, c'est ça, il faut qu'on fasse attention. C'est des gens de notre collectivité, des gens à devenir, des citoyens ouais. qui vont contribuer, donc il faut les aider.
Il faut s'adapter, c'est sûr, mais ouais, je suis conseiller social, mais avec le gouvernement, on est un centre à but non lucratif, donc... Les gens se sentent à l'aise ici, puisqu'ils ouais. savent qu'on n'est pas ici pour faire de l'argent.
C'est ça, c'est pour les aider, pour les diriger, etc. Ouais. Merci beaucoup, tu es conseiller spécial. Merci ouais. Du Centre d'action communautaire de Montréal. On continue cette émission spéciale où on parle d'immigration, de services et de santé mentale. Alors merci, bonne continuation.
Merci. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Quelque part entre les bois tu fais ça. C'est une brève réponse et l'un danse qui s'achève jusqu'à ce que ça recommence encore.
Syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale.
Nous poursuivons avec cette émission spéciale de Folie douce. Nous sommes au Centre d'action socio-communautaire de Montréal. On parle d'immigration et de santé mentale et je suis en compagnie maintenant de notre invitée, Maria Léal. Bonjour Maria, bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Tu es bénévole au centre, usagère et aussi membre du conseil d'administration. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience, comment tu es arrivée au centre et qu'est-ce que ça a été comme expérience pour toi depuis?
Moi, j'ai arrivé au centre pour remplir un papier et c'est sûr que je n'étais pas bien.
Parce que tu venais d'immigrer ou ça faisait
non.
quand même longtemps?
Non, parce que mon mari avait décédé.
OK.
Et j'ai venu pour remplir des papiers et Fernanda m'avait dit pour venir ici que j'allais être bien, que je n'étais pas bien, que j'allais connaître d'autres personnes.
Et briser l'isolement aussi.
Et j'étais très, très malade et avec une dépression,
ouais.
Je pense que mon mari venait juste de décéder.
Oui, c'est dur à vivre.
C'est dur à vivre en deuil.
Oui.
Mais j'y suis venue et j'ai dit que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie.
Oui?
Oui.
Qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé le plus? Qu'est-ce que ça a été?
C'est les personnes. C'est les activités qu'on avait ici, qui m'avaient touché à moi, comme... Moi aussi, j'avais fait beaucoup de choses pour aider les autres, mais autant que j'ai reçu que j'ai donné, mais j'étais tellement, tellement contente de voir du monde qui me comprenait, qui avait la même situation que moi,
ouais.
Et ils s'en sortis. Alors, moi, je me dis, s'ils sont bien, s'ils avaient sorti, moi aussi, je vais sortir.
Est-ce que ça remonte à beaucoup d'années avant?
Ça fait 8 ans.
OK, donc ça fait quand même plusieurs années. Est-ce que le processus s'est fait quand même rapidement pour que tu reprennes un peu plus de
joie de vivre? Ah, moi, je suis une personne très ouverte.
Oui.
Et moi, je suis... Delia me connaît. Je suis une personne que je me donne avec tout le monde. Et les autres aussi, ils sont bien contents avec moi.
Oui, oui. Donc, alors... c'est facile pour toi d'entrer en interaction avec les gens.
Là. Oui, oui.
Qu'est-ce que tu dirais qui a été le déclic peut-être pour toi? Ce qui t'a le plus aidé ici, c'est quoi?
C'est les personnes qui ne sont pas, comme on dit, j'étais tellement accueillie ici. Le monde, il dit, oh, Maria, ça va aller, c'est un jour à la fois, tu vas voir que ça va améliorer les choses. Et c'est vrai que ça a amélioré les choses. J'ai commencé à faire des bénévoles, j'ai fait des sorties avec les personnes. C'est beaucoup de choses qui m'avaient comme cliqué pour venir aider les autres.
Oui. Qu'est-ce que tu dirais est-ce que tu dirais que la santé mentale est encore mal comprise? Est-ce que c'est tabou? Spécialement chez certaines communautés d'origine ethnique différente que des
élèves canadiens. La dépression, par exemple, le monde ne comprend pas.
Oui, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est...
Ils pensent que quand une personne a une dépression, qu'on est malade. On n'est pas malade. On a une dépression, c'est parce qu'on a passé pour un deuil ou pour quelque chose d'autre qui nous fait qu'on est en dépression. Mais une fois qu'on parle, on sorte qu'est-ce qu'on a dedans, ça va aller.
Oui. Est-ce que tu avais eu, avant de venir au centre, une façon peut-être de t'en sortir, ou si ça a vraiment été... ça a été une découverte
non.
pour toi? Hein?
C'est une découverte pour moi, parce que moi, donner semaine que mon mari avait décidé,
ouais.
je ne voulais voir pas personne. Et je suis venue parce que j'étais obligée de remplir les papiers, sinon je ne serais pas venue. Mais grâce à Fernanda, je suis là debout et je continue à être. Et qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Je vous fais comme les autres ont fait pour moi.
Oui. Tu es membre du conseil, dont on disait tantôt, du Centre d'action socio-communautaire, qui existe quand même depuis 1972. C'est un centre qui est très important dans la collectivité.
Oui. Oui.
Qu'est-ce qui fait que tu continues de t'impliquer, que tu aimes t'impliquer ici?
J'aime le monde autour de moi et j'aime aider les autres comme les autres m'aident à moi. Et c'est ça que ça me fait vivre.
Oui.
Moi, j'ai dit, c'est ma deuxième maison.
Oui, mais c'est très bon comme ça. Et qu'est-ce que tu aurais à changer? Si on parle de santé mentale, qu'est-ce que tu aimerais qui s'améliore en général dans la population? Qu'est-ce qu'on devrait faire comme nous, comme citoyens, pour améliorer la compréhension de la santé mentale?
Moi, j'aimerais que le monde ne juge pas les personnes qui ont des problèmes santé mentale.
Oui.
Qu'aident les personnes plutôt que juger.
Oui.
C'est ça que je trouve.
Est-ce qu'il manque de services aussi, d'après toi? Est-ce que les gens ne savent pas trop où aller? Toi, tu as eu quand même une chance de...
Oui, j'ai eu une chance de venir ici, mais il y en a beaucoup de monde qui n'a pas.
Oui.
Mais les autres, les personnes que je connais des fois, qui me disent quelque chose, je dis, OK, viens dans le centre, tu vas voir que ça va changer les idées, tu vas voir que ça va améliorer ta vie. Moi, c'est ça que ça me... éclaté
oui.
de ma vie. Je suis heureuse d'être ici.
Est-ce que, d'après toi, il manque aussi d'informations en général dans les médias pour oui. démystifier la santé
oui,
mentale?
Oui, là? Oui.
C'est ça?
Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ignore la santé mentale. Alors, ça serait une chose bien que le monde s'ouvre et que parle qu'est-ce qu'il sent.
Oui.
Parce qu'il y en a beaucoup de monde, même s'ils sont malades, ils ne le disent pas.
C'est ça. Puis ils souffrent en silence.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Comment tu vois ton implication au centre ici pour les prochaines années? Est-ce que tu vois encore ton implication pour longtemps? Et puis,
moi, aussitôt que je peux, je viens et je donne tout mon temps que je peux donner. Et j'espère que tout le monde fait comme j'ai fait, au plus. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas conscients de les choses qui se passent des fois. Ça serait bien qu'il soit plus développé, je pense.
Plus impliqué c'est ça, ouais.
dans les personnes, dans la communauté
oui.
portugaise, par exemple.
Ça reste des humains, puis on souvent ne se soucie pas assez des...
Oui,
des...
c'est ça. On n'a pas trop d'espoir.
Oui, oui, c'est ça. Il faut qu'on donne l'espoir, il faut qu'on s'implique
oui,
pour aussi
oui.
prendre part. Merci beaucoup de ta présence, Maria Léal. Tu es bénévole au centre et
oui.
usagère aussi, présentement aussi membre du CA, du Centre d'action communautaire de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission.
Merci.
À la prochaine.
À la prochaine. Bye-bye.
Bye-bye.
Enfin ça allait, confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends, quand je suis déçu, mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comme maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom. Oh.
discute avec Angèle, pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. Je suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus. Faux rappeur, non, pour moins de buts que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, je ferai un don de quelques futurs homo sapiens. Je suis l'avatar du game et je maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer.
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème! Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
De retour au micro, donc, quelques instants pour commenter un peu ce qu'on a entendu dans cette émission spéciale sur l'immigration et la santé mentale. J'ai particulièrement aimé, j'ai aimé tous les intervenants, les gens qui sont intervenants justement à ce centre situé à Montréal, mais aussi le témoignage qu'on a entendu avant la chanson de Maria Leal qui avait des problématiques, puis qu'en s'investissant, en devenant bénévole, ça l'a aidé beaucoup à se remettre à avoir un rétablissement. Ouais,
j'imagine que c'est, dans le fond, c'est un peu comme avec tout le monde, c'est simplement que de parler au début, puis de continuer comme ça, c'est déjà beaucoup,
ouais.
Tu sais, de savoir qu'on n'est pas tout seul.
C'est ça, exactement.
Il y a des gens qui nous accompagnent, puis qui ont peut-être souvent vécu les mêmes choses.
Faut comprendre que la dépression, des fois, tu sais, on veut s'isoler, on veut, ouais. Tu sais, on vit des moments difficiles. Dans son cas, c'était le décès de son mari, mais tu sais, ça peut être plein d'autres raisons. Puis le fait de s'isoler, oui, ça peut faire du bien un certain temps,
ouais.
Mais à un moment donné, il faut voir du monde, il faut, ouais, être capable de parler, il faut avoir, faut changer un peu les idées. Puis avec un centre comme ça qui est présent dans la communauté depuis plus de 50 ans.
C'est une bonne idée d'avoir créé ce centre-là.
Oui, bien, on connaît pas tant que ça les ressources, puis c'en est une ressource qui est là pour la collectivité. Il se passe plein de choses qui sont pas nécessairement, je l'ai mentionné une couple de fois dans l'émission, mais c'est pas nécessairement publicisé à chaque jour, puis ça passe pas nécessairement, ça fait pas les manchettes des journaux, puis ça fait pas les manchettes des bulletins de nouvelles, mais c'est des services importants qui aident les immigrants pour que, à leur tour, les immigrants s'intègrent dans la société.
C'est ça, puis les immigrants aussi, avec le temps, ils peuvent devenir des intervenants, eux autres aussi.
Oui, exactement.
Ouais.
Alors, avant de terminer ce rendez-vous, Pierre, on va faire, comme à notre habitude, la nomenclature des chansons, comme, ouais, à chaque semaine. On écoutait en début d'émission « Entre toi puis moi puis la corde de bois ».
Oui, de Lisa Leblanc.
On a entendu « Agitation tropicale ».
De l'Impératrice.
On a pu entendre dans la deuxième demi « Ta main ».
De Ariane Roy.
Et il n'y a pas très longtemps, la dernière chanson après Maria Leal, c'était « Démon ».
De Angèle avec Damso.
Voilà, merci beaucoup pour ce choix musical et merci beaucoup pour ton travail en régie, comme à chaque semaine.
Bien, bienvenue, mon cher.
Je remercie nos invités qu'on a dans cette émission spéciale, justement, sur l'immigration et la santé mentale, les invités du Centre d'action socio-communautaire de Montréal. J'ai reçu Adélia Ferreira en début d'émission, Fernanda Salguero, qui est conseillère sociale senior. J'ai reçu en deuxième partie de l'émission Nour Djellané, il est conseiller social, et Maria Léal, bénévole usagère, qui nous a parlé un peu de son témoignage de vie et son rétablissement. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.